Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Alors grâce à vous et votre invité, on saura tout aujourd'hui sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les réticences françaises mais aussi latino-américaines.
Oui, pour l'instant c'est vrai que seule la France et l'Irlande ont annoncé publiquement ne plus soutenir l'accord en l'état, c'est-à-dire tel qu'il a été signé pas plus tard qu'à la fin juin. Pour l'Irlande, les réserves concernent l'agriculture. Emmanuel Macron lui a justifié sa décision par le comportement de son homologue brésilien, Jair Bolsonaro. Sa nonchalance a parlé de l'Amazonie en feu. Mais peut-être que le président français a senti que du côté de l'Amérique du Sud, la donne avait aussi quelque peu changé. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'OPALC, à Sciences Po. De ce que vous avez pu constater, lire dans la presse, discuter avec les personnes que vous connaissez dans les pays du Mercosur, comment est reçue cette toute récente réserve d'Emmanuel Macron sur l'accord du libre-échange ?
Bon, cet accord, il est très important pour les pays de la région, compte tenu des enjeux qui sont au cœur de cet accord, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le volet industriel. Cet accord est lourd d'enjeux pour l'avenir des économies de la région.
On peut rappeler en quelques mots que l'idée, c'est de supprimer d'ici à 10 ans les droits de douane sur les exportations d'un continent vers l'autre et que notamment l'Union européenne a accepté d'augmenter les quotas de viande bovine. Voilà, c'est un accord auquel il faudrait consacrer une émission entière.
Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux négociations qui avaient eu lieu il y a déjà plus d'une dizaine d'années, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que cela fait plus de 20 ans que les pays sont en train de négocier, les quotas qui ont été autorisés par l'Union européenne au cours de ces négociations sont sensiblement inférieurs aux chiffres qui avaient été évoqués il y a une quinzaine d'années en ce qui concerne les quotas de viande bovine. En 2004, le Brésil n'acceptait pas un montant qui soit au-dessous de 300 000 tonnes de viande par an. Or, dans cet accord-là, l'accord porte sur 99 000 tonnes. Donc, du côté brésilien, il y a des réticences quant à cet accord, puisqu'on voit bien que les montants qui étaient évalués il y a une dizaine d'années sont très en deçà des espérances des exportateurs brésiliens. Et c'est ce qui fait dire à certains brésiliens et certains membres des lobbies agro-exportateurs que cet accord n'est pas positif pour le Brésil.
Donc est-ce que ça veut dire que ça arrange finalement le Brésil de Jair Bolsonaro que pour l'instant Emmanuel Macron se retire de l'accord ou en tout cas dise ne pas vouloir le signer?
Pour Bolsonaro aujourd'hui, il est difficile d'admettre cette hypothèse de manière publique compte tenu de toute la publicité qui a été menée par le gouvernement brésilien autour de cet accord, mais il est clair que les priorités de politique étrangère de Jair Bolsonaro ne vont pas du tout dans le sens de la défense d'un multilatéralisme basé sur des normes, ce qui est le cœur de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, puisqu'il vise à imposer aussi des normes notamment sur le plan de la qualité, des normes sanitaires, des normes industrielles qui viseraient à assurer aux consommateurs de l'Union européenne le respect des normes qui sont en vigueur dans notre région.
Est-ce que, dans un sens, ça ne l'arrange pas aussi, Jair Bolsonaro, pour l'instant, de s'éloigner de cet accord, lui qui s'est vu imposer de plus en plus de contraintes par l'Union européenne dans le cadre de ce texte, comme cette clause, par exemple, qui l'oblige à respecter les accords de Paris en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sont des contraintes dont on ne parlait pas du tout au début des discussions sur l'accord du Mercosur. Finalement, il est en train de se dire qu'il tombe peut-être dans un piège duquel il ne pourra pas ressortir.
Sans aucun doute, d'autant plus que son grand allié, les États-Unis, ont exprimé leur mécontentement par rapport à cet accord. Le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, a fait un déplacement en Amérique du Sud quelques semaines après l'annonce de cet accord pour exprimer le mécontentement des États-Unis vis-à-vis de cet accord.
Puisque pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans le jeu ?
Très clairement, les États-Unis seraient exclus d'un marché, le Mercosur, de près de 300 millions de consommateurs, un marché qui serait ouvert de manière préférentielle aux entreprises européennes. Et donc cela ne fait pas le jeu de Washington.
Alors, encore une fois, pour revenir un instant sur Jair Bolsonaro, lui, les contraintes qui pèsent sur lui au sein de cet accord lui déplaisent beaucoup, il l'a dit à plusieurs reprises, mais pour autant, c'est pas un texte qui prévoyait des réelles sanctions s'il n'avait pas respecté ses engagements et il n'aurait pas eu à en subir les conséquences. Les ONG environnementales n'ont de cesse de le dire.
Oui, sans aucun doute. Mais là encore, je pense qu'il y a aussi un contexte politique qui a évolué dans la région sud-américaine. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques semaines. Un des grands défenseurs de cet accord en Amérique du Sud, le président Macri, le président d'Argentine,
libéral,
a perdu les élections primaires, vraisemblablement. Il ne sera pas en mesure de se faire réélire par les Argentins à la fin du mois d'octobre. Et le candidat qui vraisemblablement pourrait être en mesure de gagner cette élection a d'ores et déjà annoncé son souhait de renégocier le traité en l'état. Et donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait un acteur fondamental, un acteur majeur de cet accord qui soit, disons, critique ou sceptique vis-à-vis de cet accord, va de fait rendre cet accord non viable, en tout cas à court terme.
Les élections primaires en Argentine, c'est une sorte de répétition générale avant la présidentielle d'octobre, et c'est en effet le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez qui l'a remporté, entre guillemets, et l'Argentine a par ailleurs, et quand même aujourd'hui à nouveau menacé par une récession sévère, plusieurs signaux sont au rouge, le peso s'effondre. Est-ce que ça aussi c'est nature à remettre en cause un tel accord, ou au contraire est-ce que les éleveurs et les industriels argentins comptent sur lui pour ne pas périr ?
Alors il compte sur justement la puissance des exportations et la compétitivité argentine, mais dès lors que cet accord n'entre pas en vigueur, les Argentins devront se débrouiller par eux-mêmes. Et je crois que l'élément central aujourd'hui, c'est que tant que cet accord ne soit pas ratifié, les exportateurs argentins ne peuvent pas parier sur cet accord compte tenu du nombre d'inconnus qui existent. On a parlé de l'Argentine, on a parlé du Brésil, mais on parle aussi de la France, du fait que les agriculteurs français sont extrêmement hostiles vis-à-vis de cet accord, y compris au sein de la majorité, il y a de vraies questions par rapport à cet accord. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut rester très prudent quant à la mise en œuvre de l'accord.
C'est vrai qu'en France, des élus, principalement de La République En Marche, avaient signé contre le Mercosur, voté plutôt contre le Mercosur, mais pour le CETA, le traité de libre-échange avec cette fois le Canada. Qu'est-ce qui différencie à ce point les deux accords dans le fond ? Il y a certains élus de La République En Marche qui ont fait campagne vraiment auprès des agriculteurs de leur région pour dire non, on ne sera pas pour le Mercosur. En revanche, le CETA, on y réfléchi.
Bon, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence d'enjeu. L'accord avec le Mercosur touche de manière beaucoup plus directe les filières françaises agricoles, notamment la filière bovine, la filière du sucre. Et donc, c'est de ce point de vue-là ce qui suscite ces controverses, ces inquiétudes, également la question de la qualité, la question des pesticides, la question des OGM qui sont au cœur des méthodes d'exploitation de l'agriculture en Amérique du Sud.
Alors là, vous nous avez parlé des réserves du Brésil, de l'Argentine, mais les autres pays du Mercosur, Uruguay, Paraguay, est-ce qu'ils ont pris position récemment ? Est-ce qu'ils en ont reparlé ?
Il n'y a pas eu de prise de position publique de ces deux pays. Je pense que vous l'avez fait bien de le mentionner. Il y a aussi des pays qui sont très favorables à cet accord. Je pense notamment à l'Espagne, je pense à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ce serait la possibilité pour l'Europe de, dans un temps où le multilatéralisme n'a pas le vent en poupe, n'est pas en vogue, d'arrimer de manière structurelle l'Europe a une région qui est démocratique, qui est tant bien que mal stable, il n'y a pas de guerre en Amérique latine, et qui permettrait de créer...
Démocratique avec un président brésilien qui commence à faire peur à tout le monde quand même.
Ah, oui, bon, il a été élu démocratiquement, et surtout cet accord permettrait de créer un grand marché de 700 millions d'habitants, ce qui est quand même inédit. Et c'est pour cela qu'il y a de forts soutiens, tant en Espagne qu'en Allemagne, à la conclusion de cet accord.
Voilà, par les politiques et moins par les agriculteurs, en tout cas en Europe, et moins par les organisations environnementales, évidemment, puisque tout traité de libre-échange vise à augmenter les échanges, c'est leur définition, et forcément en ce moment, c'est évidemment remis en question. Un dernier mot pour nous dire, Gaspard Estrada, quand Emmanuel Macron se dit qu'il se retire ou qu'il ne signera pas, ça veut dire quoi? Il a un droit de veto sur l'accord, juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, non. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de ratification. Donc, de ce point de vue-là, il y aura la ratification par le Parlement européen et puis par la suite par les parlements nationaux des pays sud-américains puis des pays de l'Union européenne. Donc, la France pourrait s'opposer, c'est-à-dire ne pas ratifier l'accord, auquel cas, cet accord ne serait pas validé.
Merci Gaspard Estrada d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po.